Okay. Alors, il y a deux manières de répondre possibles. C'est que l'objectif principal, c'était de sortir d'Égypte et d'arriver au Sinaï pour recevoir la Torah. Et donc, la suite du livre de Shemot, qui a pour thème la construction du Oel Moed, la construction du tabernacle, serait une péripétie historique d'un processus qui se définirait, selon la première thèse, comme étant que l'objectif de l'histoire d'Israël, c'est de mener à recevoir la Torah, et ensuite, pratiquement, il n'y a plus d'histoire. C'est-à-dire, là, vous avez une thèse, enfin, j'élargis un peu le sujet, je ne l'ai pas abordé exactement de cette manière la dernière fois, mais vous comprenez bien que la manière dont se posent des problèmes dans la vie juive à travers le temps, et surtout dans la société contemporaine, vous retrouverez les problèmes contemporains à travers ça. C'est-à-dire, vous pouvez découvrir qu'il existe des shitot. Vous êtes déjà habitué à ce terme de shita. Des shita, des shitot, non? Comment dire des... Méthodes, oui. Bien sûr, ça veut dire des méthodes. Disons des écoles, des ramim, on ne peut plus parler français. Oui, des courants, en particulier dans le judaïsme orthodoxe, où toute la relation avec l'identité juive, le judaïsme lui-même, et comme culture, comme religion, comme identité, et devient ce que l'on appelle intériorisé. C'est-à-dire, devient, je vais mettre ça au tableau, vous allez essayer de comprendre qui était dans le judaïsme authentique, mais j'essaie de vous faire comprendre cette première tendance. C'est-à-dire, il y a eu une histoire de la constitution de l'identité juive, et elle aboutit à la sortie d'Égypte. Et une fois cette histoire achevée, alors on a accès à la réception de la Torah, et puis tout se passe comme si on est sorti de l'histoire, et on devient une communauté religieuse. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire ? Bon, vous devinez que ce n'est pas la thèse que je partage, mais enfin, j'essaye de vous écrire cela, et vous trouverez inévitablement, sous une forme ou sous une autre, dans beaucoup de courants du judaïsme orthodoxe contemporain, surtout d'influence européenne d'ailleurs, cette espèce de tendance à l'intériorisation de la Torah sous forme de vie spirituelle, de piété, de vie d'études, de la Torah, les mitzvot, mais sortie de l'histoire. Et avec, bien entendu, une sorte de projection sur la fin des temps de ce qu'on appellera l'attente messianique, l'arrivée du Messie, etc. C'est tellement ancré comme tendance que ça vous explique pourquoi, alors que nous vivons des événements qui affectent l'histoire juive, et ces milieux-là semblent rester insensibles à ce qui se passe. Tout se passe comme si, à un certain moment, ils ont quitté l'histoire et se sont constitués de façon intériorisée en communauté spirituelle, religieuse, spiritiste. Est-ce que c'est bien clair? J'ai un peu accusé la définition pour bien vous faire comprendre cette part. On revient à notre sujet d'étude, après on verra la deuxième manière de comprendre. Ce serait une première vision de la réponse à la question que nous nous sommes posée. Qu'est-ce que nous raconte le livre de Shemot ? Eh bien, cette première thèse consistera à dire, elle nous raconte la sortie d'Égypte avec comme objectif de recevoir la Torah. Dans cette Torah, il y a un commandement qu'il faut construire un temple. Mais c'est un parmi les commandements, et si on ne peut pas, on ne peut pas, et puis, bon, j'exagère un peu, mais ça devient une petite péripétie à l'intérieur d'une vision des choses que on a fini l'histoire, Géoula, la délivrance de l'histoire, la sortie d'Égypte, et puis on est sorti, en termes de culture française, on est sorti du siècle, mais je ne pense pas tellement à cette expression « sortir du siècle ». Après tout, une yeshiva, ce n'est pas forcément un monastère, et vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est pire, n'en reste pas là. Et alors, ça dépend quelle yeshiva. Et alors, le judaïsme est d'une certaine manière intériorisé, et c'est la première thèse. Est-ce que c'est clair? Vous vous rappelez des choses à vivre? En fait, quand on est sorti d'Égypte, on est arrivé au Sinaï, on a reçu la Torah. Tout ce qui se passe après, c'est des dimensions intérieures récessives par rapport à dominantes. En biologie, vous comprenez ce que ça dit, récessives dominantes, très très mineures. Par rapport à cet essentiel que on a accès à la vie religieuse de la Torah, et donc ça se constitue en identité intériorisée sous forme de piétisme. La manière grossière de rencontrer cette tendance-là, c'est lorsque cette religion elle-même n'est plus vraiment spirituelle, authentique, monastique dans le sens noble du terme, mais devient une religion sociologique, la synagogue du samedi, comme les goyim, mon église du dimanche. Vous voyez ce que je veux dire ? Une espèce de classe sociale qui a besoin, pour son standing, d'avoir aussi un lieu de culte. Donc ça, c'est le raté. Est-ce que c'est les évêques ? La deuxième thèse, que je vais mettre en évidence par un exemple pris dans la Gemara, mais on pourra en lire des milliers, c'est que l'objectif de la sortie d'Égypte, c'est la construction du Beth Amidash. Et bien entendu, et chacune des deux thèses doit donner une explication de la deuxième. C'est-à-dire, on a le même livre de chemin. La première thèse doit expliquer pourquoi, après avoir reçu la Torah, il fallait construire le tabernacle. La réponse sera très simple. Bon, eh bien, on a une maison de culte, mais l'essentiel, c'est la Torah. Et cette maison de culte peut être située n'importe où. Quand le Messie viendra, si on a de la chance, si on mérite, eh bien, ça sera peut-être dans le pays d'Israël qui restera une espèce de pôle mystique de l'espérance juive à travers 2000 ans, okay, par exemple. Mais une fois qu'on a reçu la Torah, la Torah est indépendante d'Eret Israël. Il y a des mitzvot qui concernent Eret Israël. Si on est en Eret Israël, alors il faut appliquer ces mitzvot-là, mais si on n'est pas en Eret Israël, on n'a pas les appliquer puisqu'on n'est pas en Eret Israël. Mais l'essentiel, c'est la Torah, et la preuve, c'est que la Torah est donnée dans le désert. Elle n'est pas donnée en Eret Israël, elle est donnée dans le désert. Vous voyez comment je pourrais développer ce dossier-là ? Il est complètement faux. Mais j'essaie de vous montrer comment ça se déroule. C'est clair ? Bon. Soyez bien attentifs à cela, parce que je vous donnerai un certain nombre de références dans les textes les plus simples. Ça va vous étonner que tellement de juifs, tellement de rabbins voient les choses comme ça, alors que c'est écrit en clair tout le contraire. Et je vous expliquerai ça d'ici la fin de l'année. Et si vous avez à avoir des controverses à ce sujet, faites bien attention d'être extrêmement réservé, gentil, prudent, courtois. Parce que la chose est assez énorme en elle-même. C'est une espèce d'erreur d'aiguillage. Est-ce que c'est clair ? À la limite, c'est une hérésie anhistorique qui constitue le peuple juif en communauté religieuse et que ça, alors qu'il est d'abord une nation qui a une histoire qui est insérée dans l'histoire du monde et c'est ça ce récit de la Torah. On pourrait voir la chose de mille manières, mais vous comprenez l'importance du problème. C'est clair ? Bon. Alors, la deuxième thèse aura à expliquer pourquoi il a fallu passer au Sinaï et recevoir la Torah. Et ça, je réserve la question, vous la prendrez très en détail. C'est compris en tout cas la manière dont la question se pose. On pouvait donner, si vous voulez, mettre le gros plan, enfin un coup de projecteur, sur un récit qui se résumerait de la manière suivante. Il y a une histoire de constitution du peuple juif. En fin de compte, cette histoire aboutit à la sortie d'Égypte pour recevoir la Torah au Sinaï. Et ceci dit, une fois qu'on a reçu la Torah, eh bien bon, il y a le problème de l'être Israël, mais c'est pas secondaire, mais c'est second. On rejettera ça au temps messianique. On voit très bien que c'est très important de construire le Beth Amikdash, le Mishkan du désert étant la préfiguration du Beth Amikdash, mais c'est une mitzvah de la Torah. Tandis que pour la deuxième thèse, le fait d'avoir dû passer au Sinaï pour recevoir la Torah, vient secondairement, c'est parce qu'on n'a pas pu directement aller à Jérusalem construire le Beth Amikdash. La deuxième thèse aura à rendre compte de cette espèce de parenthèse du passage au Sinaï pour recevoir la Torah au Sinaï. Bon, c'est pas ce soir que vous allez avoir les argumentations des deux, on aura à les étudier pendant toute l'étude sur la Agada de Pessah, et même jusqu'à la fin de l'année, mais je voudrais vous donner un échantillon de ce point. Est-ce que vous avez bien compris comment la question se pose ? C'est clair pour tout le monde ? Okay. Je ne peux pas étudier ça maintenant, vous avez pas, j'étais persuadé que chacun avait apporté un fromage. Parce que avant que vous partiez, je vous demandais que vous apportiez chacun un fromage. C'est la première fois que vous êtes parti de même. À qui je l'ai dit ?
Pour moi, vous demandez des fromages.
Et alors pourquoi vous n'avez pas porté ?
Non, je crois que c'était le canard.
Et alors, Je vais simplement vous faire, avant d'aborder le texte de la Gemara, une introduction très générale sur une des introductions possibles sur l'importance du bétamidage. Là, je me réfère à toute cette... On peut fermer, là ? C'est fermé ? À toute une série de textes qui développent le problème dans la perspective suivante. Le bétamidage... lui-même, le Bétamidage de Jérusalem lui-même, étant en préfiguration l'accomplissement de toute l'histoire du monde, depuis la création. Je vais faire un schéma. D'abord, on va voir être obscur, mais ça va s'éclaircir. Je ne pense pas étudier déjà à s'installer. Mais très rapidement. Voilà. La Torah commence par vous apprendre, il va prendre ça comme postulat, que le monde a été créé. Le monde a été créé à l'origine. Le monde a un créateur. Et puis, nous avons un récit difficile à comprendre, mais dont l'objectif global peut être compris de la manière suivante. Ce monde qui a été créé à l'origine est façonné, agencé par le créateur pendant 6 jours. C'est les 6 jours du commencement. Peut-être que j'ai fait un livre à ça pour un autre sujet. Après, je reprends ça maintenant. Et puis, l'histoire de l'homme commence à la fin du 6e jour du commencement, et tout se passe comme si toute l'histoire humaine et ce que nous appelons le Olam Hazeh, ce monde-ci, est situé, logé dans ce 7e jour du commencement. Est-ce que l'idée vous est suffisamment claire? Je reprends, si vous voulez, le rythme du récit du commencement, du premier chapitre de Bereshit. Pour vous donner simplement un détail qui nous éclairera cela, et ce fut soir, ce fut matin, jour 1, jour 2e, jour 3e, 4e, 5e, 6e, à la fin du 6e jour, l'histoire de l'homme commence, mais entre-temps, la Torah nous enseigne que le monde est entré dans l'état du Shabbat. Il n'y a pas écrit, et ce fut soir, ce fut matin, jour 7, jour 7e. Il n'y a pas encore écrit. Ça signifie que tout se passe comme si, toute l'histoire qui commence au premier homme, et dans le 7e jour du commencement. Est-ce que c'est clair? Nous avons peut-être vu d'une autre manière. Et alors, je vais reprendre ce schéma par rapport à notre problème, en vous expliquant de la manière suivante. Il y a, a priori, une impossibilité absolue au projet du Créateur. Il y a une impossibilité métaphysique, que je vais essayer de vous décrire rapidement. Je ne me rappelle pas si on a parlé de ça, mais enfin, ça fait rien, on va le reprendre. Quel est le projet du Créateur? C'est de créer un monde qui puisse être la demeure commune entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire un monde où il puisse y avoir, pas coexistence en français, ça a un autre sens, mais existence possible et de Dieu et de l'homme. C'est ça l'objectif du Créateur. Or, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'il y a là une impossibilité absolue. Qui pourrait expliquer pourquoi? Et ça nous permettra déjà d'arriver par cette préface à la notion d'alliance. On est allié, et une alliance entre Dieu et une partie de l'humanité pour résoudre un... On est allié contre, en termes militaires. Une alliance, c'est contre un ennemi commun. Contre une impossibilité commune. Bon, encore 4 ou 5 phrases, et ça va devenir très simple, mais pour le moment, je comprends que ça puisse rester obscur. Mais premier point, pourquoi le projet du Créateur ainsi défini en termes bibliques? De créer un monde où il puisse y avoir présence réciproque et de Dieu et de l'homme, pourquoi c'est impossible? Et cependant, c'est cette histoire que la Torah nous raconte pour nous expliquer le monde où nous sommes. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, répondez d'abord à la première question. Pourquoi il y a une impossibilité ontologique, métaphysique, absolue?
Dieu ne sait pas.
Comment?
Dieu ne sait pas.
Ça, c'est la question, ce n'est pas la réponse.
Est-ce que l'homme va chercher à revendiquer tout de suite le monde pour lui seul?
Non, ça c'est des conséquences du problème. Allez tout de suite, allez.
Si Dieu existe, il est tout, il ne peut pas voilà. Exister quelqu'un d'autre que
voilà. Dieu. C'est-à-dire, par définition, dans le monde de Dieu, il n'y a pas de place pour l'homme. Il n'y a pas de place pour autre que Dieu. Par définition. Ne comprenez pas Dieu, le Dieu de la Bible, comme un parmi les êtres. C'est l'être absolu. Est-ce que c'est clair? Et voilà l'image que donnent les textes. C'est une image. Et imaginez la différence entre l'absolu et le relatif. C'est l'image de la lumière. La lumière absolue, nous n'avons qu'une seule illustration de Goumar, le soleil. Bon, ça c'est la lumière absolue. Bon, nous avons des lumières relatives. Par exemple, une bougie. Alors essayez de mettre une bougie dans le soleil. Elle disparaît. C'est clair. C'est-à-dire, dans l'être absolu, il n'y a pas de place pour l'être relatif. Est-ce que c'est clair? Regardez que pour qu'un rayon du soleil puisse exister par lui-même, il faut qu'il soit loin du soleil. Près du soleil, c'est le soleil lui-même. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut un éloignement absolu. Et je vous parle en termes d'image spatiale, mais essayez de comprendre l'idée qu'il y a derrière. Pour que mon existence soit individualisée, et il faut que je résolve d'abord cette impossibilité théorique primordiale.
Oui, vous avez déjà fait la question en disant...
Parle plus lentement. Non, j'entends pas, parle plus lentement.
Vous avez déjà fait la question en disant comment ça se fait qu'il y a impossibilité d'une demeure commune entre Dieu et l'homme. Et alors, vous avez dit déjà, il y a Dieu, il y a l'homme. Moi, je conçois très bien que l'homme puisse avoir besoin de Dieu, ça, c'est évident. Mais pourquoi Dieu a besoin de l'homme, alors
C'est un tout autre problème.
Bon, alors que, oui, mais ça ne rend pas
cette question. Laisse-moi parler. Non, tu as changé de problème. Déjà. Organisme. Dieu, c'est, de la Bible, ce n'est pas un parmi les êtres, c'est le créateur du monde. Alors, je reprends dans les termes stricts. Le projet du créateur, c'est donc de créer un monde où lui, le créateur, et la créature soient en présence. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas le problème de ce soir. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il en est ainsi d'après ce récit. Nous existons, nous avons été créés, donc il y a un créateur dans l'économie du récit. Alors, ce que je veux mettre en évidence, c'est que le projet du créateur, théoriquement, se heurte à une impossibilité, que je commence par vous décrire, mais ça, c'est le premier moment du raisonnement. Alors, attendez qu'on arrive à la fin, pour savoir si on a compris. Et alors, j'ai voulu vous l'illustrer par une image classique, traditionnelle, de l'image de la lumière. Dans l'être absolu, il n'y a pas de place pour l'être relatif. Ça, c'est pour la première question. Est-ce que ça, c'est bien clair? Si des questions se greffent dans ce raisonnement pendant que vous m'entendez, mettez-les de côté provisoirement, ne les mélangez pas. Okay? Alors, le deuxième point, qui est peut-être un peu plus difficile à comprendre, est dans le monde de l'homme, il n'y a pas de place pour Dieu. Voilà les deux formules que vous avez. Premièrement, dans le monde de Dieu, il n'y a pas de place pour l'homme, a priori. Il y a une impossibilité. Pourquoi? Rappelez-vous de cette image. Mettez une bougie dans le soleil, elle disparaît. Elle n'existe pas. On appelle ça en hébreu, pour ceux qui savent l'hébreu, Zé Batel Bintimut. Alors, ça c'est simple à comprendre. Comprenez-le en termes théoriques abstraits. La définition du Dieu de la Bible, ce n'est pas un parmi les êtres et qui serait divin. Okay? Ça c'est la projection psychique du besoin de l'autre au niveau des hommes sur les problèmes religieux. En tout cas, de moi, vous n'avez jamais entendu ces expressions-là. L'homme a besoin de Dieu, Dieu a besoin des hommes. Ça, c'est les philosophes qui parlent comme ça. Pas les croyants. Et même si vous trouvez ça dans un livre apparemment d'un croyant, ne mélangez pas les vocabulaires. Et là, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et alors, la deuxième formule est plus difficile. Qu'est-ce que ça veut dire que dans le monde de l'homme, il n'y a pas de place pour Dieu? Et je dirais d'une certaine manière, ce n'est pas humoristique, que naturellement, l'homme est athée. Enfin, naturellement. Il faut s'entendre sur le mot de nature. Hein, à moins qu'il n'ait une information sur sa véritable nature. Enfin, livré à ses propres forces. C'est ça. Non, ça c'est du naturisme. C'est déjà une orientation idéologique.
De la même façon qu'il y a une
disproportion
entre l'absolu et le relatif. Et, enfin,
en d'autres termes, ce que tu
dis. L'exemple que tu as donné, il est gravé
Exactement. Pas chrétien dit irréversible.
Irréversible.
Oui, c'est la même chose, c'est la même raison. C'est-à-dire, si là où il y a la bougie, le soleil arrive, la bougie disparaît. Et c'est pourquoi la bougie se garde du soleil, quelque chose. Vous avez compris ce que je veux dire? Bon. Voilà. Et on pourrait l'illustrer d'une toute autre manière, j'ai choisi une manière simple, mais de comprendre que, a priori, il y a une impossibilité. Le projet dont nous parle la Bible, il est a priori impossible. Et c'est ça qui est le projet de l'histoire de l'homme. Ensuite, je vous montrerai le mécanisme. Mais avant de vous montrer le mécanisme, je vous dirai quel est l'essentiel de l'enseignement des prophètes de la Bible, depuis l'origine jusqu'à nous, c'est que c'est l'intuition hébraïque fondamentale, et c'est l'essentiel de l'enseignement de la prophétie biblique, et ne mélangez pas ça avec la mystique, c'est que c'est la vertu morale qui seule peut résoudre cette impossibilité. Vous voyez que nous sommes loin des psychomystiques philosophiques. Nous sommes dans la Bible des Hébreux. Vous comprenez la différence? Et ça, vous relirez toute la Bible attentivement en hébreu, puisque ça ne fait pas pour l'hébreu. Et vous verrez qu'il n'y a pas de chose. Enfin, qu'il y a cela. C'est-à-dire que... je vous ai donné la réponse à l'avance. Mais maintenant, nous devons comprendre le mécanisme. Alors voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Ce que la Torah nous raconte, c'est que pendant 6 jours, le monde est aménagé. Et là, il n'y a encore pas d'homme. Il n'y a pas d'homme. C'est à la fin de cet aménagement, l'homme apparaît. Et dès le moment où l'homme apparaît, Dieu se cache. Et pourquoi il se cache? C'est encore une image, mais déjà pas seulement une image. Pourquoi il se cache? Parce que s'il se dévoile, ça serait de nouveau le monde de Dieu avec le passeport. Vous plaît? C'est-à-dire que pendant tout le temps de l'histoire, Dieu est caché derrière l'apparence que prend le monde, qui est l'apparence de la nature. C'est pourquoi, là je reviens sur ce point, parce que maintenant il est un peu à sa place, c'est pourquoi chaque fois que les hommes parlent, emploient des expressions de ce genre, que l'homme a besoin de Dieu, on ne sait pas de quoi il parle. Et ça, c'est une expérience psychique du désir de l'autre projeté sur le problème religieux biblique, et ça n'a rien à voir. C'est la raison pour laquelle, vous le savez peut-être, on ne peut pas être rabbin si on n'est pas marié. Parce que tant qu'on n'est pas marié, quand on fait la prière, on ne sait pas à qui on s'adresse. À la fiancée qu'on n'a pas encore, ou à Dieu lui-même. Et réciproquement, d'ailleurs. Ne mélangez pas le problème psychique et le problème religieux. La frontière est fragile, vulnérable, parce que c'est un problème d'amour dans les deux cas, mais ne confondez pas. C'est l'impureté la plus grande de mélanger l'expérience sexuelle avec l'expérience religieuse. Alors, chaque fois que je lis ces philosophes, Dieu a besoin de l'homme a besoin de Dieu, on est en plein là-dedans. Mais alors en plein. Voilà, c'est la substitution du problème psychique au problème religieux. Et c'est très impur, si vous voulez comprendre. Quelle est la raison pour laquelle, alors que la Torah nous dit que le monde a été créé, premièrement, tant qu'on n'a pas reçu l'information de l'enseignement biblique, lorsque nous ouvrons les yeux sur le monde où nous vivons, nous n'avons pas l'impression que c'est un monde qui est créé. Qu'est-ce que je veux dire? Que c'est un monde qui porte avec évidence la certitude qu'il a un créateur. Le monde sur lequel nous ouvrons les yeux nous renvoie à une évidence tout à fait autre. Opposer un monde qui existe par lui-même et qui se... Mitafked, qui
opère.
Qui fonctionne par des mécanismes impersonnels. Le monde de la nature qu'étudient les savants. Est-ce que c'est clair? Oui. Or, la Torah sait très bien que quand on va ouvrir les yeux sur le monde, eh bien, c'est pas du tout un monde qui porte avec lui l'évidence qu'il est créé que nous allons percevoir, mais le monde tel que je l'appelle la nature, pas la création, mais la nature. Est-ce que ça va jusque-là? Tout est clair jusque-là? Ce n'est que pour une conscience qui a déjà cette information, qu'il s'agit en réalité d'un monde créé, que lorsqu'elle, cette conscience qui sait déjà, que c'est un, qui est déjà informée que c'est un monde créé, qui perçoit le monde de la nature à travers son apparence de nature comme un monde créé. Mais c'est parce qu'il y a une information préalable. Là, je reviens un peu à l'analyse que j'ai fait tout à l'heure. Que, et bien, l'objet du récit du premier chapitre de la Torah, c'est de nous expliquer l'identité réelle du monde dans lequel nous sommes. C'est un monde créé, devenu la nature. Et c'est cela l'objet du récit du septième jour. Le septième jour, le monde devient la nature. Comment ? Par le fait que Dieu se cache derrière l'apparence des lois de la nature. Et pour cela, il y a une raison. Il y a plusieurs raisons, mais celle qui nous importe pour ce sujet, c'est que tant que je ne suis pas capable d'être en sa présence, alors il ne peut pas se dévoiler. C'est trop dangereux pour nous. Est-ce que c'est bon clair ? Ce n'est qu'à la fin des temps qu'on a un rendez-vous du dévoilement. C'est pourquoi je vous ai donné la réponse à l'avance, c'est-à-dire lorsque le Beth Amidash pourrait être construit. Qu'est-ce que c'est que le Beth Amidash ? C'est une maison où l'homme et Dieu peuvent être en présence sans danger pour l'homme. Et c'est pourquoi il faut des précautions. Et quelle est la précaution essentielle ? C'est la moralité. Tous les prophètes de la Bible n'ont jamais dit autre chose. Il ne s'agit pas d'expérience mystique. Il s'agit d'abord de moralité. C'est la vertu qui fait qu'il peut y avoir présence face à face entre Dieu et l'homme. Vous voyez par exemple l'enseignement de Maïmonide, où c'est dit en clair, enfin, ça c'est très tardif, mais tout l'ensemble des prophètes d'Israël. Alors voilà donc ce qui se passe. Tout se passe comme s'il y a une espèce de division du travail en deux. Dans les six jours du commencement. Et Dieu, tout se passe comme si le Créateur a fait sa part du travail. Il a aménagé le monde pour que l'homme soit habitable par l'homme. Et l'histoire de l'homme commence. Et là, c'est la deuxième partie du travail. Et maintenant, c'est à charge pour l'homme d'aménager le monde de telle sorte qu'il puisse devenir la demeure de Dieu. Est-ce que c'est clair ? Mais quelle est la réponse de la Bible ? C'est la moralité. Et c'est un cas particulier dans l'histoire de toutes les cultures. Alors que cette moralité, que ce face-à-face, que cette présence implique une ferveur que vous pourrez même, si vous voulez, si ça vous fait plaisir, appeler mystique, mais c'est second à la moralité, c'est pas premier. Est-ce que c'est bien clair ? Alors voilà, une minute. Tout se passe comme si on a un rendez-vous à la fin du septième jour. Pendant les six jours, selon le récit biblique, le Créateur a fait sa part du travail, il a aménagé le monde pour qu'il devienne habitable par l'homme. L'homme hérite du monde à la fin du sixième jour, du commencement. Okay? Et son rôle, et c'est toute l'histoire de Rol Amazé, c'est d'aménager le monde de telle sorte que Dieu puisse y revenir sans manger. Jusque-là, il est caché. Et ici, vous découvrez un paradoxe énorme. Ce qui est normal, c'est que Dieu ne se révèle pas. Ce qui est normal, c'est qu'il n'y ait pas la prophétie.